BS on Amigo beat. Hip hop culture, Henny on coasters, watching 100-inch screens, see who's sitting with Oprah. Black phantoms, women coming in tandems, bags of lambin', she praying she don't get abandoned. Bag big from laying these ad libs. My photo, the Jordan logo for this rap shit. Oculus VR, that's how I see shit. I can't let you drive the.
Bonjour à tous pour cette 21e émission de l'art qui parle de notre temps. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les questions engagées sur la recherche en école supérieure d'art et de design. Lors de notre entretien avec Caroline Zahn au cours de la précédente émission, nous avons échangé sur la définition de la recherche en art, de son organisation au sein de l'école supérieure d'art et de design d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à Eva Vedel, pour qu'elle nous explique le projet qu'elle a mené avec l'équipe du programme de recherche Object Craft and Computation dans le cadre de la manifestation Eurofabrique au Grand Palais Éphémère qui a eu lieu donc du 7 au 10 février 2022 à Paris. Elle va décrire puis expliciter le projet Europa 2022. De plus, l'ESSAT d'Orléans organise une exposition à la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier à Orléans jusqu'au 24 avril 2022, intitulée « Tant qu'il y aura des fleurs ». Le groupe de recherche de Caroline Zahn y présente le projet Data Vaisselle que nous avons évoqué avec elle qui traite de l'objet funéraire. Je cite la description sur le site du groupe de recherche. Le monument funéraire est composé de trois éléments, une hoya imprimée en céramique microporeuse, une urne cinéraire imprimée dans un matériau biosourcé et biodégradable, ainsi qu'une pierre tombale formée par fraisage numérique. C'est un objet transformatif qui agit à la fois sur le milieu social, qui en a l'usage en déterminant de nouvelles formes rituelles, mais aussi sur le milieu environnemental avec lequel il est en interaction. Une olla ou olla est un pot ou marmite en espagnol, est un diffuseur d'eau en argile microporeuse à planter ou à enterrer. On s'en sert depuis 4000 ans pour arroser les plantes naturellement et selon leurs besoins. Le projet est de fabriquer une pierre tombale circulaire reprenant la position des astres lors de la naissance du défunt. En son centre, un trou relié à l'urne enterrée y guide l'eau récupérée par le plateau que forme la pierre tombale. Cette eau se mélange avec les cendres, puis se diffuse dans la terre et alimente par les racines l'arbre planté à son côté. Ce projet relie la naissance à la mort et la mort à la renaissance de la vie. L'Oya urne est réalisée grâce à l'emploi d'une imprimante 3D. Plusieurs projets de l'exposition procèdent ainsi d'un choix de données pour permettre soit de fraiser un matériau, soit pour construire un objet à l'aide d'une imprimante 3D. Jonathan Kipp réalise des vases à partir de sons de pièces musicales qu'il intitule Soon Surface 2022. Dans la pièce Dataglyph Zip 2021-2022, Eva Vedel utilise des extraits de textes qui déterminent des formes de vases. Dans le projet Bold Design, William Boujon et Julien Benayoun expérimentent des formes de vases comme tissé, dont le code informatique qui gouverne le chemin parcouru par la buse de l'imprimante 3D semble suivre un fil tantôt tissé, tantôt lâche, formant une boucle résultant d'arrêts, d'entrecroisements selon une logique organique. Ces vases sont véritablement étonnants et nous montrent combien une logique de code informatique peut rejoindre des lois biologiques et aussi réinventer des formes neuves du design. Si l'exposition au premier regard pourrait paraître un peu vide, comme toujours, il faut porter attention à ce que l'on voit, prendre le temps de s'arrêter, s'informer et apprécier. Son aspect profondément expérimental l'a rendue très intéressante pour celui qui sait lui consacrer un regard attentif, puisant dans la lenteur la compréhension de ce qui lui est offert. Mais avant cette discussion avec Eva Venel, je vais vous parler d'une lecture d'un petit livre de Giovanni Lista, critique d'art italien de grande renommée, qu'il a consacré à Giorgio de Chirico et qui s'intitule « Giorgio de Chirico et l'invention du mannequin abstrait ». De Chirico est un peintre italien né en 1888 et mort en 1978. Il est l'un de ces artistes précurseurs de l'art moderne au début du XXe siècle, comme le seront les cubistes, le futuriste, les suprématistes, les surréalistes, etc. Nous l'avons déjà croisé lors de l'exposition De Chirico, la peinture métaphysique à l'Orangerie en 2020 à Paris, dont je vous avais parlé au cours de la 7e émission. La musique programmée dans cette émission n'a, comme souvent, rien à voir avec ses contenus, mais répond à des choix musicaux conjoncturels. Une playlist que m'a donnée un ami m'a remémoré l'excellent album de Bashung, Bleu Pétrole, de 2008, dont sont extraits les trois morceaux de musique qui viendront rythmer l'émission. Sur un trapèze, puis Je t'ai manqué, et enfin Il voyage en solitaire, une reprise de la très belle chanson de Gérard Manset de 1975.
Sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. On dirait que les pirates nous assiègent et que notre amour c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord. J'ai traqué les toujours des os et les déesses. Aux alentours, souvent changer d'adresse. Ceux qui nous entourent, l'extension de nos corps. Quand nous sommes à l'écart, mineurs, chercheurs d'or. Aujourd'hui ton sourire fait grève. On dirait qu'on sait lire sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. Peut-être que la nuit, le monde fait la trêve.
et ton sourire en fait grève. On dirait qu'on s'est lié sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze.
Un peu de lecture. Rappelez-vous, lors de l'exposition de De Chiricot, la peinture métaphysique à l'Orangerie, en 2020 à Paris, dont je vous avais parlé lors de la 7e émission. J'avais évoqué mon envie de réaliser une note de lecture sur le livre de Giovanni Lista, Giorgio De Chiricot et l'invention du mannequin abstrait. Il s'agit d'un petit livre d'un grand historien de l'art italien qui vise à démontrer que De Chiricot a inventé le mannequin métaphysique au travers de l'analyse de son œuvre. Peut-être, avant toute chose, il faudrait revenir sur le thème de métaphysique, de peinture métaphysique et de mannequin métaphysique. La métaphysique questionne la connaissance du monde, des choses et des processus en tant qu'ils existent au-delà et indépendamment de l'expérience sensible que nous en avons. La peinture métaphysique est un mouvement artistique fondé en 1917 par Carlo Cara, Giorgio De Chiricot et son frère Alberto Savigno, qui cherche à représenter ce qu'il y a au-delà de l'apparence physique de la réalité, au-delà de l'expérience des sens. Le mannequin est une porte facile pour accéder à cet au-delà du corps et des sens, puisqu'il est inerte, sans affect, et qu'il n'est qu'une représentation schématique du corps dénué de vie. Pour parvenir à traduire sa vision, De Chiricot doit créer un espace, des corps, des objets, qui ne portent aucun sens et aucune humanité. Giovanni Lista insiste sur la déshumanisation. Je le cite. Autrement dit, l'un des thèmes iconographiques les plus complexes de l'art moderne, celui de l'apparition pendant les années 1912-1914 d'une représentation dépsychologisée, désindividualisée de l'être humain, est ainsi devenu un corps anonyme et sans intériorité. La déshumanisation comme thème central de la modernité, en fait, le mannequin métaphysique est issu d'une recherche autonome et purement formelle de De Chiricot. Né en opposition au mannequin réaliste des vitrines parisiennes, et à l'homme-machine théorisé par l'avant-garde futuriste, le mannequin métaphysique résulte également d'une approche répétée des simulacres de la figure humaine, à savoir la statue, l'ombre, le double et la marionnette, qui incarnent les différentes possibilités de représenter l'être humain en le saisissant dans sa forme matérielle entre vivant et l'inanimé. Cette volonté de mettre à distance l'humain intervient après la barbarie de la Première Guerre mondiale, qui nous interroge sur l'humanité des hommes. Je cite Giovanni Lista. Le refus d'une approche narrative ou psychologique de l'objet est en effet la base commune de toutes les innovations formelles de l'art moderne. Depuis l'Ostraneni, sentiment d'étrangeté, de Victor Chlokovsky, jusqu'au Verdun effect, effet de distanciation, de Bertolt Brecht, ce processus qui a été aussi défini comme défamiliarisation, destruction de l'illusion référentielle, distanciation, désinstrumentalisation, déréalisation, extranéisation, étrangéisation, rupture de la logique séquentielle du langage, décontextualisation, altérisation, désautomatisation, allogisme, chosification, etc. a été différemment finalisé selon les résultats à atteindre. Toute la culture d'avant-garde a voulu mettre en œuvre ce processus afin de permettre un accès plus profond au réel, au regard d'un regard critique sur le monde et d'un rôle progressiste de l'art. Toute la culture d'avant-garde a voulu mettre en œuvre ce processus afin de permettre un accès plus profond au réel, au nom d'un regard critique sur le monde et d'un rôle progressiste de l'art. La décomposition cubiste restituant le réel en termes de connaissances, autant que la défiguration futuriste traduisant le monde en termes d'énergie, ont cherché à dévoiler une vérité cachée, à rendre plus compréhensible et pour ainsi dire plus transparent les objets qui nous entourent. Chez De Chiricot, c'est exactement le contraire qu'il s'agit. S'inscrivant en faux contre l'art d'avant-garde, l'art métaphysique vise plutôt à opacifier encore plus le monde, à rendre perceptible sa substantielle inaccessibilité. Toute la peinture métaphysique de De Chiricot suivra en effet un fonctionnement sémantique de type oraculaire, comme le fait l'oracle du Mont Cantique, dans le sens qu'elle sera basée sur le contraste didactique entre, d'une part, une très forte demande de sens, et, de l'autre, la frustration causée par l'ambiguïté et l'hermétisme des signes. De Chiricot ne peindra plus de paysages naturels, mais des paysages urbains ponctués de personnages et d'objets isolés. Chacun de ces tableaux sera conçu comme une scène de signes essentiels, excluant tout enchaînement narratif, logique ou conséquent. À l'instar de la parole d'un oracle, le langage figuré de sa peinture sera symbolique, mystérieux et obscur. Chaque tableau est une énigme difficile à interpréter. Autrement dit, De Chirico est l'inventeur d'une peinture oraculaire où l'objet est montré au-delà de sa valeur d'usage, de son statut fonctionnel ou utilitaire. La peinture métaphysique révèle l'en-soi de l'objet, son existence pure, sa manifestation comme un chiffre indéchiffrable. Giovanni Lista oppose clairement la peinture d'artistes avant-gardistes, comme les cubistes, les futuristes, à celle de De Chirico. La première tente à construire une nouvelle vision du réel, pas celle que l'on observe dans notre quotidien, mais celle d'une vision au-delà du réel visible, en lien avec une approche plus conceptuelle du monde, une forme de reconstitution du réel, soit à partir d'éléments de la réalité de la vision, soit du rêve, soit de l'intuition du peintre. Voilà comment Guillaume Apollinaire, dans son livre « Les peintres cubistes, méditation esthétique » en parle. Ce qui différencie le cubisme de l'ancienne peinture, c'est qu'il n'est pas un art d'imitation, mais un art de conception qui tend à s'élever jusqu'à la création. En représentant la réalité conçue ou la réalité créée, le peintre peut donner l'apparence de trois dimensions, peut en quelque sorte cubiquer. Il ne le pourrait pas en rendant la réalité vue, à moins de faire du trompe-l'œil en raccourci ou en perspective, ce qui déformerait la qualité de la forme conçue ou créée. Il s'agit bien d'une reconstruction après une forme de destruction, de distanciation du réel, pour en proposer une autre vision plus rigoureuse, plus pertinente. Cette reconstruction porte une vision progressiste du réel, car elle vise à se débarrasser des freins qui l'entravent. De manière très grossière, j'en conviens, je vais tenter un rapprochement avec une expression commune qui traduit justement cette nécessaire distanciation avec le réel. Il vous est arrivé de dire que vous devriez prendre de la distance par rapport à votre situation familiale, amoureuse ou professionnelle. En disant cela, vous ne faites que constater que vous devez sortir de la réalité quotidienne pour mieux comprendre où vous en êtes, c'est-à-dire définir la réalité que vous voulez donner à votre vie. Vous analysez la réalité de votre vie pour reconstruire celle à venir. Cette pensée marque la période moderne, vous êtes sujet de vous-même, responsable de vous-même, et non, comme dans la période classique précédente, sujet dépendant d'un dieu, d'un roi ou de dame nature. Cette positivité vers un monde nouveau, nous la retrouvons aussi bien chez les futuristes, les cubistes et les peintres abstraits. A l'inverse, Chirico cherche à mettre en évidence le non-sens de la vie, de sa réalité, comme si la fin des religions et autres croyances laissait l'homme seul face à lui-même, perdu sans illusion ni destin. L'être n'étant plus qu'une chose, sa responsabilité devient impossible. Seul son passage dans la vie d'une société, son histoire, marque sa réalité dans le temps. Le passé est le lieu d'origine du présent, d'où l'effort de De Chirico de se situer sur la ligne de crête entre vivant et mort, en d'autres termes le spectre, entre l'individu et la chose, en d'autres termes le mannequin, entre la lumière et l'espace, en d'autres termes l'ombre, entre l'individu et l'immortalité, en d'autres termes la statue. Pour ce faire, il structure son travail autour de quelques vecteurs de pensée, refus de la nature au profit de l'urbanité construite, refus de l'anthropomorphisme au profit des choses, refus du sens au profit du signe, et refus de la transparence au profit de l'opacité. Nous allons successivement étudier ces quatre points. Premièrement, le refus de la nature au profit de l'urbanité construite. Giovanni Lista écrit « Le premier élément qui caractérise la peinture métaphysique est l'architecture considérée dans ses fondements essentiels, c'est-à-dire d'une part dans son opposition à la nature comme espace construit en tant que pure expression de géométrie et de matière. Et d'autre part, dans sa raison d'être, à savoir dans cette idée première que l'architecture consiste à produire de l'espace sensible. Cet espace sensible apparaît structurel dans le contexte urbain, dans la ville, laquelle n'est rien d'autre que le déploiement logique de l'architecture, rien de plus que cette nature relationnelle de l'architecture à elle-même. D'où une peinture éminemment scénographique qui réitère l'image d'une archétypie et déserte place d'Italie, évoquant en filigrane l'utopie des villes idéales de la Renaissance, mais dénonçant aussitôt par une perspective faussée une fracture désormais irrécupérable dans la continuité de l'histoire. Les tableaux de deux Chiricot sont faits d'objets signes, des colonnes, des portiques, des fausses perspectives relevant de l'art de la Renaissance, des cheminées, des trains, des contreforts relevant de la ville industrielle moderne. Mais point de nature, de champ à perte de vue, de montagne, que du ciel. Deuxièmement, le refus de l'anthropomorphisme. L'auteur affirme, dans l'un des textes de Chiricot, Méditation d'un peintre, qu'il faut se libérer une fois pour toutes de l'anthropomorphisme. Dépouiller l'art de tout ce qu'il pourrait encore contenir de routine, de règles, de tendance à un sujet, à une synthèse esthétique. Supprimer complètement l'homme comme point de repère, comme moyen pour exprimer un symbole, une sensation, une pensée. Se libérer une bonne fois de ce qui entrave toujours la sculpture, l'anthropomorphisme. Voir tout, même l'homme en tant que chose. C'est la méthode nietzschéenne. Giovanni Lista poursuit en écrivant. De Chiricot refuse ainsi l'art traditionnellement centré sur l'humain, c'est-à-dire axé sur l'homme comme individualité créatrice, comme sujet de narration, comme psychologie de l'individu devenu personne, comme thème privilégié visant l'expression d'une sublimation héroïque, voire d'un pathos ontologique. Ces tableaux se peuplent de silhouettes, de mannequins dont les têtes sont des marottes, sortes de têtes comme des ballons, des bustes sans bras, avec des caches-épaules inventés à Paris par Stockmann en 1867 pour les bustes de couturières. Troisièmement, le refus du sens au profit du signe. L'auteur écrit « Le non-sens apparaît lorsqu'on est confronté à l'en-soi de ce qui est, c'est-à-dire à rien d'autre que la nullité ontologique des choses, à ce que Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle, appelle la pure manifestation de la volonté en tant que désir aveugle du vouloir vivre, cette force inconditionnée qui pousse chaque chose à se tenir dans l'existence. La force de vie qui fait que nous sommes là, comme l'est une plante, un objet, un animal, repérable comme signe de cette force de vie. Un brin d'herbe qui pousse dans une infractuosité d'une grande plaque de béton, par exemple. L'ontologie est une branche de la philosophie qui, dans son sens le plus général, s'interroge sur la signification du mot « être », qu'est-ce que l'être, est une question considérée comme inaugurale, c'est-à-dire première dans le temps et première dans l'ordre de la connaissance. Quatrièmement, le refus de la transparence au profit de l'opacité. L'auteur, en parlant des mannequins, écrit « De Chiricot a vu, dans les marottes sans visage des vitrines parisiennes, la possibilité de les assembler avec des bustes de couturière pour créer le nouveau corps » du mannequin abstrait, c'est-à-dire un corps figé et inanimé, un corps capable de représenter l'être humain comme chose. Tel est en effet le contenu de son affirmation lorsqu'il parle d'une indiscutable sens métaphysique du mannequin. Privé de visage et donc d'identité, le mannequin abstrait de l'art métaphysique incarne le non-sens de l'être humain, perçu comme un objet incompréhensible, impénétrable et contradictoire. L'assemblage comme procédé formel de la modernité est aussi bien employé par les cubistes que par De Chiricot. Les cubistes assemblent des éléments disparates du réel de la vie d'une personne pour reconstruire une identité. De Chiricot l'utilise à l'instar des surréalistes pour en opacifier le sens, pour l'immerger dans une irréalité, un espace onirique. Un même procédé formel conduit à la réalisation d'œuvres différentes, voire opposées. L'œuvre d'un peintre cubiste porte un sens opposé à celle de la peinture métaphysique de De Chiricot. La modernité de ce début du XXe siècle enfante bien deux visions opposées du monde, celle du progrès, de l'avenir radieux, de la technologie et celle de la crise de l'humanité. Avant de conclure avec un extrait du texte de Giovanni Lista, je vais citer les extraits d'un texte de Jean Clerc, renvoyant de la crise de la modernité, qui engendre aussi bien les totalitarismes que le monde technologique progressiste. Jean Clerc écrit dans le catalogue de l'exposition De Chiricot au Centre Georges Pompidou en 1983. L'appréhension aiguë du monde dans lequel il parle de Chiricot, est entré, ou plutôt dans lequel il avait été expulsé, le monde moderne de l'industrie, monde de la technique, monde des échanges incessants, monde de la non-permanence, monde du labile et du fugitif, monde de la manipulation des masses, monde enfin qu'avec Mircea Eliade, on pourrait appeler le monde de la terreur de l'histoire. Viendrait le temps où De Chirico pourrait confondre dans ses mémoires l'esthétique de la modernité et les visées du nazisme. La doxa modernis, son exaltation du progrès, de la tabula rasa, son idéologie anticulturelle, son culte des héros charismatiques, attend le cours de l'histoire, son mépris des vrais matériaux de l'art, sa propension à la gnose, quand le savoir prétend s'articuler à un pouvoir, son goût en fait des manifestes tapageurs et des actions de masse, l'assimiler au totalitarisme. Assimiler modernité et régime historicis, comme le fit De Chirico, ce n'est pas céder au goût du paradoxe. C'est rappeler que l'un comme l'autre sont nés de l'esprit des Lumières, de la volonté d'organiser rationnellement la société, et que leur destin est aussi commun. Les uns, comme de tout totalitarisme, s'achèvent dans la terreur, fut-elle déguisée sous les ornements néo-grecs, et la seconde dans la barbarie, se cacha-t-elle sous les théories progressistes. Pour conclure, je vous cite le texte de Giovanni Lista. L'homme au visage effacé, à la face entièrement lisse, ne dispose pas de l'individualité psychique propre à la nature humaine. Il n'a pas de subjectivité, excluant ainsi toute expérience de l'altérité, toute révélation de l'être de la personne. Ce qui est familier devient alors effrayant. L'effet de désorientation qui domine dans la peinture de De Chirico est celui d'une perte de sens qui fait émerger la banalité et l'absurdité de la créature humaine, sa seule réalité matérielle devenue une chose incompréhensible. Ainsi, le mannequin métaphysique traduit la fin d'un paradigme iconographique qui a régné pendant des siècles en tant que modèle éthique sur toute la peinture occidentale. Avec sa peinture métaphysique, De Chirico dresse le constat de l'impossibilité d'une représentation de l'être humain à l'époque moderne. Sans doute, De Chirico a-t-il voulu ignorer qu'il avait créé une image ambiguë et néanmoins fondamentale de l'aliénation de l'être humain à l'époque de la modernité. Ainsi, ce livre sur un sujet bien étroit, le mannequin métaphysique, démontre combien cette période du début de la modernité nous enseigne sur la poursuite de son ambivalence entre une pensée autoritaire et nationaliste et une pensée capitalistique et progressiste, et qu'il conviendrait désormais de dépasser.
Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais? Tous nos échanges coulaient de source, tous nos mélanges cotés en bourse. Tout est brutal, beauté en touche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais? Tout est extrême, limite et cône glacée, tout est idem, les vitrines, les pôles opposés. Dans les étoiles ou sous la douche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Pourquoi tu me disais? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait rien, si l'on construisait les phrases à l'envers, ou si l'on soulevait de main, qui serait l'adversaire? Entre nous, qui serait le plus malin? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait plus rien? Je t'ai manqué, pourquoi tu me fichais? Thank you. ferroviaire qui aurait le pied marin, si l'on sifflait les fonds de théière, ou si l'on ne sifflait plus, qui serait l'adversaire entre nous, qui serait le plus malin, et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne se disait plus rien. Pourquoi tu me visais? Je t'ai manqué. Pourquoi tu me visais?
Bonjour Eva. Nous nous sommes rencontrés à Eurofabrique, qui s'est déroulée du 7 au 10 février au Grand Palais éphémère à Paris. L'école y présentait une installation qui s'appelle Europa 2022, en collaboration avec The Eugenius Gueperette Academy of Art and Design à Varsovie. Puis j'ai conduit avec Caroline Zahn un long interview sur la recherche en école supérieure d'art et de design. Et aujourd'hui, je vous propose d'échanger sur cette installation Europa 2022, pour lequel vous avez eu un rôle important. Mais, dans un premier lieu, pourriez-vous me présenter un peu votre parcours ?
Oui, alors j'ai commencé à aller dans les études d'art et design par une CPGE à Toulouse en art et design sur 2 ans. Et ensuite, je suis arrivée en 3e année ici à l'ESSAD, où j'ai passé mon DNA en objet espace. Et ensuite, j'ai continué mon cursus en master design des communs.
Donc CPE, précisons, c'est des écoles, c'est des formations préparatoires,
c'est ça,
à l'entrée aux écoles d'art, supérieures d'art.
La CPGE, c'est une classe préparatoire où on passe le concours de l'ENS Cachan.
Ouais.
Donc j'ai passé le concours, puis après j'ai souhaité venir ici à l'ESSAD en 3e année. Et une fois l'année dernière, j'ai eu mon DNSEP, donc mon diplôme de master en design des communs, que j'ai passé en double, ça me tient à cœur de le dire, parce que j'ai passé à la fois mon DNSEP en toute seule et à la fois en collectif avec Manon Souchet et Amélie Sanson, avec lesquelles on a créé un collectif qui s'appelle le collectif Kairos. Et on a vraiment souhaité passer le DNSEP à la fois seul, mais aussi en collectif, parce qu'on avait beaucoup travaillé ensemble.
Ouais, et je trouve que c'est très bien qu'à un moment, des diplômes puissent être communs, puisque ça permet en fait de montrer que déjà que toutes les formes d'art ou même de recherche sont des aventures collectives. Quelles ont été vos motivations pour passer le cap au-dessus,
puisque
DSRD. Alors là aussi DSRD, donc diplôme supérieur de recherche
en design, qui dure sur 3 ans après le diplôme de master.
Donc qui est un diplôme qui est reconnu par le ministère de la Culture et qui n'est pas encore reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
C'est ça.
Voilà, donc c'est un troisième cycle, on va dire, qui est ministère de la Culture.
J'avais hésité après mon DNSEP, parce que d'écrire un mémoire, c'est un exercice qui m'a beaucoup plu. Et j'avais hésité entre soit partir à l'université pour faire une thèse, ou plutôt rester en école d'art. Et finalement, même si la recherche en école d'art n'est pas encore tout à fait reconnue, même si elle est reconnue par le ministère de la Culture, je préférais quand même rester ici, parce que je trouve qu'en école d'art, la différence, c'est qu'on fait émerger de la recherche et du savoir à partir de la pratique, du travail en atelier. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est vraiment le dialogue, les allers-retours entre à la fois une réflexion qui soit dans l'écriture et à la fois vraiment des temps en atelier. C'est toujours l'aller-retour entre l'écriture et le faire, en fait, qui m'intéresse dans la recherche. Et en plus, ici à l'école, donc je participe au programme de recherche Object Craft and Computation, qui était initié par Karine Zen, Olivier Bouton et Sylvia Fredrickson. Et donc, rester ici en école d'art, de faire à la fois sa recherche personnelle, mais en même temps contribuer à des projets communs qui nous amenaient aussi à faire le projet Europa 2022. Ça, c'est chose qui m'intéresse, parce que finalement, quand on est designer, on travaille surtout en commun et pas forcément tout seul.
Revenons sur l'installation et merci pour ces précisions. Alors la première chose, je crois qu'il est important qu'on est sur une radio puisqu'on ne voit pas les œuvres. Bien sûr que vous verrez sur les expositions, il y a des news où je mets des photos. Mais en fait, il il faut avant tout décrire, dire ce que c'était que cette installation Europa 2022.
Cette installation, c'est une grande structure en bois qui prend un petit peu la forme de l'Europe, de la cartographie européenne. Et sur les structures, il y a posé plusieurs pièces en céramique un petit peu partout, et ça représente la cartographie linguistique de l'Europe.
Donc en fait, c'est des structures en bois longiformes, on va dire, un peu suspendues, comme des tréteaux, on va dire, mais très longs, qui reprennent une grille, une sorte de grille qui représente l'Europe. Donc oui. C'est assez schématisé.
C'est ça. En fait, la structure en bois, c'est la cartographie de l'Europe, mais linguistique, générée par un Voronoi, qui est un algorithme en fait qui permet en fait de mettre des points de différentes zones linguistiques, et ensuite il crée des espèces de mots de cellules en fait. De points à partir de ces points, et donc à partir de ça nous a créé une cartographie de l'Europe qui est donc un petit peu disforme, enfin c'est un peu déformé
parce qu'elle est dépendante en fait du paramétrage de l'existence des langues.
C'est ça.
Voilà. Alors l'installation présente aussi des socles. Ces socles aussi, ils ont été définis de quelle façon en fait?
C'est ça, c'est par cet algorithme Voronoi aussi. En fait qui c'est algorithme Voronoi, donc on a ces différents socles, et dessous la structure vient tracer ce quadrillage.
Et ils ne sont pas très grands, c'était un choix, ils auraient pu être plus grands, moins grands, ou quel était le choix de leur étendue?
Je pense qu'on voulait avoir quelque chose qui était assez libre, qui prenne un petit peu, qui ne soit pas très chargé au niveau de la scénographie. Et aussi, l'idée, c'est de pouvoir rajouter à des plateaux ou en enlever. Parce qu'il y a des moments où il y a des plateaux qui sont restés vides parce qu'on n'avait pas encore récolté les langues qui étaient associées. Et finalement, on peut aussi rajouter des plateaux parce qu'on se rend compte, à certaines zones, en fait, il y a différentes langues ou des petites nuances linguistiques. Donc, l'idée du projet et de cette scénographie, et je pense qu'on le voit aussi dans la grille qui peut s'étendre et les différents plateaux qu'on peut moduler. C'est d'avoir une scénographie qui peut être modulée, agrandie ou rétrécie.
Alors, il y a un autre point très important, c'est qu'au sol, il y a des indications.
Oui, au sol, il y a des typographies au sol qui indiquent la langue correspondante à la sculpture qui est posée dessus. Donc, en fait, chaque sculpture en céramique représente une langue. Et donc, on peut lire... et voir à quelle langue ça correspond avec l'écriture qui est posée au sol.
D'accord, donc on a la sculpture qui est posée sur ce socle et qui lui-même est posée en fait sur ce montage en bois, on va dire, sur ce tréteau en bois, enfin longiforme. Et puis au sol, on a les indications de la langue qui a été retranscrite en fait par l'informatique dans la forme. Alors peut-être il est temps de parler de cette forme, comment elle est générée déjà, et aussi bien au départ par un programme informatique, et puis comment elle se génère, on va dire, en matérialité par le système en fait l'imprimante 3D.
On a chaque langue qu'on a récoltée. Bon, déjà, les langues, on les a récoltées par un appel à contribution sur le web. Donc, on a choisi une citation de Yann Pastrouchka, qui est un philosophe. Et donc, on a demandé en fait aux gens de lire, nous envoyer un audio en lisant cette citation dans une langue étrangère, enfin une langue autre, ou même des patois d'ailleurs différents.
Alors, peut-être on peut la lire et puis vous me direz après pourquoi vous avez choisi plus particulièrement cette citation-là. Oui. Donc, la citation de Jan Patočka, qui est un philosophe tchèque, qui est né en 1907 et qui meurt en 1977. Et qui vit tout le temps dans son pays, en Tchéquie, qui vit plusieurs répressions. C'est un homme assez, assez marquant, une sorte de personnalité intellectuelle très très forte en Tchéquie. Alors, je lis la citation. « C'est un même héritage qui se maintient à travers les catastrophes, et c'est pourquoi il me semble qu'on peut se hasarder à affirmer que l'Europe occidentale surtout, mais aussi celle qu'on appelle l'autre Europe, est issue du soin de l'âme. Voilà le germe dont il est né, ce qu'a été l'Europe. » Pourquoi ce choix?
Ce choix de Jan Patočka, c'est parce que c'est quelqu'un qui a écrit un très beau texte sur l'Europe, Et en fait, c'est vrai qu'en faisant un petit peu des recherches sur les différents écrits de l'Europe, il y avait des choses qui étaient très politiques et des choses qu'on ne pouvait pas vraiment soutenir. Alors que Jan Pašuška, c'est une personne qui a vraiment s'est battue pour ses idées d'une Europe, l'Europe qu'on veut, quoi, l'Europe utopique qu'on souhaite. Et donc c'est pour ça que ça nous tenait à cœur de...
D'accord, très bien. Donc ensuite, vous avez demandé donc aux personnes qui ont répondu à votre appel au web de lire...
C'est ça, de lire cette citation et nous envoyer un audio avec la lecture de cette citation et avec leur accent, leur indiquant leur accent, d'où ils viennent, quelle langue, les différents patois. Et donc grâce à cet audio, on a créé un algorithme. Enfin, c'est surtout Gabriel Martinez qui a travaillé dessus, qui a créé cet algorithme sur le logiciel Grasshopper. Et donc, on met cet audio dans l'algorithme et cet algorithme permet de générer des motifs sur la sculpture en céramique. Donc, c'est-à-dire que chaque...
C'est une analyse du son.
C'est une analyse du son. En fait, c'est différents fréquences...
Fréquences, variations...
Et de la voix.
De la voix.
C'est ça qui permet de créer les différents motifs. Donc en fait, on a une forme de base qui ressemble un petit peu à l'idée du porte-voix, qui est donc tout lisse. Et en fait, c'est vraiment cet algorithme. Et grâce au son qui vient créer les différents motifs et variations, un petit peu comme de la broderie, on dirait, un petit peu autour des céramiques. Et ensuite, une fois qu'on a généré donc, cette forme et les différents motifs pour chaque langue, donc c'est-à-dire que chaque sculpture est différente pour chaque langue, on vient, donc on génère ce qu'on appelle un G-code, qui est en fait une suite de positions en fait, entre X, Y, Z, et qu'on envoie à la machine l'impression 3D céramique, et qui en fait vient imprimer la machine. Donc là, on a choisi du grès blanc, qui est...
En fait, la machine qui suit en fait le programme informatique, hein, donc cette machine fonctionne en colombin et donc réagit en fonction du programme avec des pics, pas des pics, des creux, etc., etc. Et construit cette espèce de forme en porte-voix.
En fait, le porte-voix, le diamètre le plus petit est en fait imbriqué dans la structure en bois.
D'accord.
Et donc le diamètre le plus grand s'élève vers le ciel.
Et donc c'est comme si on allait l'acter.
C'est ça. D'ailleurs, il y avait même une enceinte qui était dans une des sculptures où on pouvait écouter les différents sons, comme si le son en fait sortait de ces sculptures. Donc, pour être plus près sur la phase l'impression 3D céramique, la machine qu'on a, elle marche par un compresseur d'air. Donc, en fait, il y a un gros piston dans lequel on met le grès qui est sous forme un petit peu de pâte, qu'on humidifie et qu'on prépare. Ensuite, grâce à la compression en air, on envoie une pression entre 6 et 7 bars qui pousse en fait un piston et qui envoie par un tuyau la terre. Et à la fin, il y a une buse. Donc là, on a une buse de 3 mm et qui en fait, cette buse fait le trajet qu'on a généré par l'algorithme et en fait permet de construire, comme vous disiez, la structure en colombin.
Alors, la grande difficulté de ce procédé, c'est bien entendu... parce qu'avec les imprimantes 3D, on peut faire tas de choses, on peut faire du métal, on peut faire de la céramique, on peut faire de l'encre, bien entendu, on peut faire du plastique. Le problème, bien entendu, c'est la précision qu'il faut de la nature du matériau qui est injecté pour pas que ça bouge ou que ça file.
C'est ça,
Et c'est très compliqué, ça.
Oui, la céramique, c'est vraiment pas comme l'impression plastique. On a vraiment passé beaucoup dans l'équipe, en tout cas on a passé beaucoup de temps à faire des expérimentations avec 1% d'eau, 1% d'alcool, tel grammage, on mesure vraiment notre terre. Après c'est vraiment très empirique finalement, plus on le fait, plus on arrive à comprendre la texture exprès qu'il faut de la terre, qu'elle soit vraiment assez visqueuse, bien collante, pour que les couches s'adhèrent entre elles. Il faut aussi tel degré de chamotte, tel pourcentage de chamotte ou pas, chamotte plus ou moins fine pour que ça puisse passer à la machine. Donc ça demande beaucoup d'expérience et à chaque fois qu'on a une nouvelle terre, on reteste, on refait des essais avec une nouvelle terre. Est-ce que c'est toujours...
Combien vous avez utilisé de buses? Une seule?
Là, on en a plusieurs, franchement. Surtout qu'en plus, c'est vrai que ça s'abîme vite parce qu'avec les chamottes qui passent, elles deviennent un peu oblongues. C'est plus rond.
C'est plus rond.
C'est plus rond, ouais.
Oui, parce que ça a fait de l'abrasion.
Ouais.
Donc en fait, ça peut paraître simple, mais en fait, c'est d'une assez grande complexité.
Surtout que,
ne serait-ce que technique.
Hein. Oui, c'est ça. Surtout qu'en plus, on pense que c'est parce qu'on fait de l'informatique et on le met sur une machine, ça se fait tout seul et qu'on ne salit pas les mains. Mais en fait, au final, la machine, c'est vraiment comme un extrudeur à la main, sauf que c'est exactement le même système. Donc finalement, c'est très artisanal comme machine. Aussi, ça a une esthétique assez particulière parce que comme c'est fait au colombin, on choisit aussi de ne pas lisser les stries que font la machine, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment le tracé de la machine. C'est quel tracé elle fait. Le tracé de la machine est déformé par le son qu'on donne à l'algorithme. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est vraiment ces différentes strates qui montent petit à petit. On ne veut pas les effacer parce que c'est comme ça aussi qu'on... c'est pour ça qu'on utilise cette machine. Et l'idée aussi du le travail qu'on fait, c'est de ne pas imposer vraiment ce qu'on veut faire à la machine, mais c'est de partir de ce que peut faire la machine et à partir de ça, de penser une sculpture par le tracé plutôt que par sa forme. Donc c'est une manière différente de penser le volume.
C'est de laisser en fait à la logique de la programmation le droit de s'exprimer comme elle l'entend.
C'est ça. Et puis surtout que dans la création, finalement, il y a différentes entités qui viennent, à la fois la machine, mais aussi la céramique, qui est un matériau qui demande beaucoup de savoir-faire. C'est pas un matériau comme le plastique, c'est pas aussi facile à imprimer. Donc en fait, il y a différents paramètres qui peuvent parfois aussi créer des erreurs. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est les erreurs.
Oui, c'est les bugs.
Voilà.
Voilà. Alors, pourquoi vous êtes parti des langues oubliées ou le patois ou des langues qui se parlaient moins ou...
Oui, justement, c'est quand on nous a présenté le projet Eurofabrique, on voulait vraiment mettre en avant les langues qui sont perdues parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que l'altérité n'est plus très acceptée. Et qu'en France, même en France, on a beaucoup d'enseignement du français à l'école, au détriment aussi des langues, des patois qu'on est en train de perdre. Et finalement, c'est des cultures et des langues qui sont en train de se perdre petit à petit. Et on trouve ça dommage. En fait, il y a plus des coupures nationales au sein de l'Europe, alors que finalement, c'est tellement plus vaste et tellement plus de diversité.
J'aurais deux questions. Est-ce que ça a un rapport finalement à cette... idée de la défense de la biodiversité,
on
pourrait... ça fait partie de ce grand mouvement-là, non, dans votre esprit?
Oui, tout à fait. Enfin, la biodiversité, c'est aussi... les diversités culturelles, je pense que c'est totalement...
Et est-ce que vous pensez aussi que dans votre projet, qui finalement peut paraître tout à fait neutre, une position finalement politique, de dire que...
Oui, tout à fait, et ça, on l'assume complètement, ce positionnement politique. Enfin, même les présidentielles qui vont bientôt arriver, certains candidats ont l'idée de renforcer le français à l'école parce qu'il faut vraiment bien savoir parler français. Mais qu'est-ce que ça veut dire bien savoir parler français aujourd'hui alors que on est composé de tellement de diversités culturelles différentes et l'idée c'est de... J'ai l'impression qu'il y a vraiment l'idée nationaliste d'écraser les diversités culturelles pour avoir une seule vision une seule façon de parler, une seule vision des choses. D'ailleurs, même sans même parler des différents patois, mais juste les accents. Quand on vient de différentes, du sud de la France, par exemple, et qu'on vient à Paris, on est moqué pour notre accent du sud. On est moqué pour l'accent du sud. La France, puis même tous les pays, il y a beaucoup d'immigration, donc il y a des gens qui parlent aussi des langues qui sont complètement hors Europe. Et alors on trouve ça dommage aussi, les gens qui viennent, mes grands-parents viennent de son cabinet marocain, et quand ils sont arrivés en France, c'est des cultures en fait, cette culture cabinet marocaine, mes parents et moi on ne l'a pas du tout, parce que quand on arrive en France, il faut arrêter de parler sa langue originelle et adopter complètement la langue française et la culture française. Et finalement, c'est des cultures en fait qu'on perd complètement au fil des générations parce que quand on arrive en France, il faut parler français.
Après, je pense qu'il faut parler français, mais pas que. Voilà. En gros, c'est ça. C'est le pourquoi le pas que. La pensée nationaliste, c'est une pensée qui est unique en fait. Il y a une sorte de volonté de faire que tout le monde soit bien aligné en rang avec une seule tête, comme on dit. Puis au fil des générations, les choses évoluent aussi. Enfin, rien n'est stable en fait.
C'est ça que j'ai un problème avec cette pensée de le français uniquement, cette manière de. La pensée nationaliste, c'est que j'ai l'impression que, comme vous dites, tout doit être stable et pareil du...
Ces formes extrêmement autoritaires des systèmes nationalistes, quoi qu'on en dise, puisqu'ils ont l'impression de vouloir en effet conserver quelque chose qui n'est pas conservable. Mmh. En fait, c'est un vrai problème. C'est des gens qui ne voudraient pas changer d'époque, mais l'époque a déjà changé. Revenons sur notre projet, dont on a vu qu'il n'était pas totalement neutre, comme pourrait le laisser supposer l'installation. Est-ce que cette installation, bon, elle est finie, ou est-ce que vous voulez lui donner d'autres développements?
Voilà. Alors pour l'instant, cette installation, on pense l'installer à Bourges en mai. Ensuite, on a fait un site web où dessus on récolte, donc c'est là où on récolte les audios, mais aussi on met en fait, pour tout le monde, on fait une espèce de collection avec les audios et chaque sculpture différente avec la photo des sculptures qui sont générées par cet audio. Et en fait, on va ouvrir là prochainement un compte GitHub où dessus on va mettre tous les G-codes en open source pour les personnes en fait qui puissent réimprimer aussi les sculptures chez eux. Donc l'idée, c'est déjà d'étendre cette collection pour avoir une collection en fait des différentes langues et des différentes cultures. Et ensuite, cette structure, je pense qu'elle va être, à mon avis, elle va être amenée à être modifiée aussi dans les différentes expositions et dans les différents lieux où on va exposer. Elle va être amenée à soit rétrécir, soit montrer que des bouts, soit justement être étendue.
Est-ce que dans le raisonnement que vous avez eu par rapport à ces langues, il y a quelque chose sur lequel vous voulez avancer plus particulièrement, en termes de recherche, j'entends, ouais, pas en termes d'application, en fait.
Ouais. Au niveau de l'algorithme, donc là, les formes, elles sont générées par les fréquences, mais je pense que ça serait intéressant de développer un algorithme où ça ne soit pas généré par les fréquences, mais vraiment par les mots, ou peut-être par les rythmes aussi des différentes langues quand elles sont prononcées. Donc là, c'est que ça serait intéressant de se rapprocher de linguistes, dont on en avait parlé, mais... pour générer un algorithme, voilà, je pense qu'il ne soit pas vraiment généré par le volume, que la forme ne soit pas générée par le volume, mais vraiment par les mots et les rythmes de la langue. Ça, c'est une extension, c'est quelque chose auquel il faut continuer à réfléchir.
En fait, c'est ça la recherche, se poser ce type de questions.
C'est ça. C'est vrai que même, par exemple, pour les typographies, on a débattu pendant une heure de où on posait les typographies, parce qu'à la base, on voulait les mettre sur le plateau. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout, donc on les a mis au sol. Et je pense que c'est des fois, en fait, ça arrive qu'on pense des choses et qu'on fasse des recherches sur des choses. Et c'est un peu comme une arborescence. Et des fois, on prend un chemin, une arborescence, et en fait, la branche meurt. Et en fait, on dit, en fait, non, c'était pas la bonne direction. Et donc, on prend une autre direction. Et ça peut être pareil aussi avec le son. S'il faut, on va faire totalement, on va réfléchir techniquement comment on peut faire. Une fois arrivé à l'installation, on va se dire mais en fait ça marche pas du tout, ou peut-être que ça marche pas avec les typos, peut-être que ça marche que à certains endroits, peut-être qu'en fait finalement c'est pas dans chaque sculpture qu'il faut mettre un dispositif d'écoute, mais plutôt un dispositif d'écoute à côté. Donc,
La recherche, c'est à partir d'éléments, donc à la fois de conception, parce que le système de choisir une langue, de la transférer, c'est de la conception, jusqu'à la matérialisation, puisque ça, c'est l'enjeu en fait du programme de recherche. Donner une forme, c'est ce que fait l'art, pour moi.
Oui, je pense que là où se positionne le programme de recherche, c'est vraiment entre le lien entre à la fois des matériaux qui sont ancestraux et à la fois les technologies numériques. Et finalement, la donnée numérique, vous parlez de matérialité, la donnée numérique, c'est un immatériau, finalement, et ça reste un matériau comme le bois ou la céramique, parce que ça a ses contraintes aussi spécifiques qui sont liées à l'ordinateur. La céramique, c'est des contraintes spécifiques liées aux contraintes physiques. Et donc, quand on travaille aussi avec des données numériques ou la matière comme la céramique, on arrive à des bugs, à des surprises aussi. Et c'est là, je pense, où on se positionne. C'est pas seulement utiliser le numérique comme un outil, mais plus comme un matériau, parce qu'on n'essaie pas aussi d'imposer une forme au numérique, mais vraiment de partir de cet outil-là pour créer.
Je pense que cette idée du numérique comme matériau, c'est une idée extrêmement forte, en fait. Le passage de l'outil au matériau, à mon avis, ce n'est pas neutre, et c'est quelque chose qui est peu étudié, en fait. Et c'est certainement un des moyens de penser l'informatique dans un rapport plus dynamique que de l'outil. qu'est-ce que ce matériau, en fait ?
Bah, dire que c'est un matériau, c'est dire que c'est un peu agissant en lui-même. Enfin, que, comme je disais, pas vraiment qu'il est vivant, mais en tout cas qu'il a ses propres manières d'agir et qu'on doit se contraindre aussi à sa manière de faire, enfin, comment le numérique fait. Et comme la céramique, c'est pareil, c'est la céramique a ses manières de faire et ses contraintes. Et c'est nous qui devons se contraindre à la céramique et on doit se contraindre aussi à la donnée numérique. Et c'est comme ça aussi.
Sauf que c'est plus dur à penser.
Voilà.
C'est beaucoup plus dur à penser qu'avec la céramique où les choses sont plus évidentes parce qu'on a une sorte de physicalité. Alors qu'avec la data, d'abord on est sur une immensité et on est sur des espaces qui sont immenses, qui sont ubiquitaires et qui sont virtuels. Donc c'est ça qui rend les choses extrêmement difficiles par rapport à notre empreinte physique dans le monde, en fait, quelque part.
C'est pour ça aussi que les logiciels que l'on utilise, c'est des, par exemple, Grasshopper qui nous permet de directement coder. En fait, on a des blocs de choses qui sont pré-codées, mais qui permettent de penser la forme différemment qu'avec des logiciels qui sont un peu préconçus ou les choses sont un peu préfaites.
Ouais. Mais de toute façon, quel que soit Grasshopper, qui est un système assez souple, Pure Data, un système compliqué mais assez souple, etc., qui sont des logiciels qui permettent énormément de potentialités, ils restent quand même dans une logique structurelle.
Oui, exactement.
Et la logique structurelle, elle joue comme est la céramique. La céramique, elle peut être dure, elle peut être liquide, elle peut être trop liquide, elle peut être faite de grès, elle peut être faite d'argile. Enfin, mais la céramique, c'est un matériau. Saisir ce qu'est le matériau en fait d'un logiciel, c'est beaucoup plus complexe. C'est le code, certes, mais le code ne donne pas tout. Parce que le code, c'est comment le code va vivre, en fait. Comment on va l'utiliser, quelles vont être les limites qu'on ne va pas voir. Quelle est sa partie d'invisible, quelle est sa partie de visible, enfin, ces questions-là, en fait. À partir du moment où on se part du matériau, on part bien d'une organicité, en fait, quelque part. Peut-être pas de vie, mais d'organicité. Et est-ce qu'on peut dire que les data sont organiques ? Moi, je le pense, fondamentalement. Et donc, ça suppose donc de les analyser autrement. Ce sont nos créations, hein, comme d'aller chercher la terre, la nettoyer, c'est aussi notre forme de création. On ne fait pas de la céramique avec en ramassant un bout de terre et dire je vais faire un morceau de céramique. C'est toute une préparation.
Oui.
Bon. Les data, c'est pareil. Merci à vous.
Merci.
Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté sans